que cette soirée soit consacrée aux relations de famille et en particulier à ce que la parole nous dit des relations entre les époux. Alors évidemment, quand on examine la parole sous cet angle, on s'attend à se trouver en présence de... Je vois que ce soir, il y en a sans doute, mais il y en a beaucoup d'autres que le Seigneur a conduit à travers la vie, et d'autres qui sont au début de cette course à deux, comme d'autres encore n'ont pas encore eu la joie de fonder un foyer. Mais enfin, la parole de Dieu est là pour parler à chacun. Et la meilleure chose est dans la Genèse, où le principe fondamental du mariage est placé devant nous. Dieu nous dit que le mariage soit honneur à tous égards. Et aujourd'hui, nous le savons bien, autour de nous, on détruit le mariage. On vit ensemble le temps qu'on souhaite, sans avoir ce lien que Dieu a voulu, former le couple et le foyer et la famille, ou bien on se sépare. Après, la parole est très précise quant au mariage. Mais c'est la base de la famille, la transmission de la vérité de génération en génération, sur laquelle les psaumes insistent. Et dès le début, dès le chapitre 2 de la Genèse, il nous en parlait, n'est-ce pas ? Nous connaissons bien ces versets, mais on peut les relire. Genèse 2, verset 10. Et l'Éternel Dieu dit, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena à l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci des os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera ou quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Première pensée, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que dans le premier chapitre, Dieu créa l'homme à son image, l'homme, c'est l'être humain, c'est le Mensch en allemand, et non pas le Mann. En français, nous n'avons qu'un mot, n'est-ce pas, pour indiquer l'homme, l'homme, l'être humain, homme ou femme, et le mari, l'homme viril, le vir, par opposition à l'homo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ici, c'est l'homme. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et voilà, en deux, trois mots, la parole place devant nous cette pensée, celle qui va être sa compagne, sera une aide qui corresponde, ou celle qui se tient devant lui ou vis-à-vis de lui. Et dans le dernier paragraphe, quelle qu'en soit la signification profonde, il y a évidemment une figure du Seigneur déjà dans sa mort et résurrection. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Pourquoi ce détail? Cette aide qui correspond, elle est prise d'à côté de lui, d'une côte, pas du pied, pas de la tête. Cette compagne, elle ne sera pas une esclave. Elle ne sera pas celle qui domine le foyer, mais elle sera celle qui marchera à côté de lui. Et c'est frappant, n'est-ce pas, dans les pays païens, presque partout, la femme est au fond une esclave. C'est la femme qui doit élever les enfants, c'est la femme qui doit faire les travaux. L'homme la laisse faire, plus ou moins. Quitte à la maltraiter, Mais là où vraiment le christianisme a pris place, la position de la femme est bien différente. Et bien sûr que dans un foyer chrétien, alors entre croyants, il y a cette communion qui résulte de ce fait de marcher côte à côte dans le chemin du Seigneur. C'est la première pensée qui nous est donnée. Et puis, l'homme quittera son père et sa mère, ici c'est donc le mensch, quittera son père et sa mère, aussi bien le mari que l'épouse, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Un nouveau foyer se forme. Et c'est un nouveau foyer qui est une cellule pour elle-même. L'homme quittera son père et sa mère, il n'abandonne pas ses parents. Et le jeune couple sera heureux, bien des fois, si la maman ou la belle-mère vient à son secours. Mais c'est un foyer responsable pour lui-même, dans lequel les parents n'ont plus à s'immiscer contre le gré des enfants. Ce principe, on l'oublie parfois, suivant où, suivant dans quel milieu. Bien sûr que les parents ont parfois des conseils à donner, quelques exhortations à faire, mais fondamentalement, ils doivent respecter le nouveau foyer. Et les jeunes époux n'ont pas à retourner vers la maman ou vers le papa pour se plaindre de son conjoint. Mais s'il y a quelques problèmes entre eux, c'est entre eux qu'ils sont appelés à les régler. Entre eux, devant le Seigneur et avec son secours. Et voilà le foyer idéal. Côte à côte, une seule chair, un nouveau foyer. Et comment cela s'est-il passé? Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et le principe demeure. Nous voyons cet après-midi avec les jeunes. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut en faire un sujet de prière dès que l'époque de la vie est là. Pour que vraiment ce soit lui qui conduise le jeune homme vers la jeune fille et la jeune fille vers le jeune homme. Mais c'est une chose trop merveilleuse pour moi, dit Agur dans le livre des Proverbes. Le chemin du navire au cœur de la mer, le chemin du serpent dans le rocher, sur le rocher est le chemin de l'homme vers la jeune fille. Cela ne se fabrique pas. Les parents, pas en tout cas dans le christianisme, non à faire un mariage, je lui ferai une aide. Et quand le Seigneur Jésus cite le passage dans l'évangile de Matthieu, ce que Dieu a uni, ça peut paraître difficile, ça peut paraître utopique, mais c'est la foi. La foi en un Père qui nous aime. La foi en un Seigneur qui veut le bonheur des siens. Le psalmiste dit, l'hirondelle a trouvé un nid où elle a mis ses petits. Alors bien sûr, dans ce psaume 85, le psalmiste a en vue les autels du sanctuaire pour lui. Mais il parle avec tendresse. Le passereau a trouvé un nid et l'hirondelle où elle a mis ses petits. Combien est heureux un foyer que Dieu a formé. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette joie. Le Seigneur a ses voies particulières envers les uns ou envers les autres, soit en vue de son service, soit en vue de diverses circonstances qu'il connaît, mais fondamentalement, c'est le désir de Dieu. C'est ce qu'il a préparé pour le bonheur et pour la protection aussi de ses enfants. Bien sûr, nous connaissons tous le passage d'Éphésiens 5, mais on peut en reprendre une ou deux pensées. Éphésiens 5 nous dit au verset 21, « Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, on a mis un point à la ligne, mais le texte continue, « Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes à vos propres maris comme au Seigneur, etc. » Tout est en relation avec le Seigneur, dans la crainte de Christ, aux soumis, comme au Seigneur, et ensuite, verset 25, Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée. De même, au verset 28, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Ce chapitre souligne, d'une part, cette soumission dans la crainte de Christ, cette soumission comme au Seigneur, cette soumission qui, à la fin du verset 33, est dite qu'elle craigne son mari ou qu'elle respecte son mari. Mais surtout, met l'accent sur l'amour. L'amour du mari pour son épouse, comme Christ a aimé l'Assemblée. Et il y a là une signification profonde, bien sûr. C'est qu'il y a trois mots en grec pour l'amour. Il y a le agapé, l'amour qui se donne, l'amour divin. Il y a le verbe philéo, avoir de l'affection, dans la philosophie, philharmonie, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime la sagesse, ou philanthropie, j'aime les hommes. Et le eros, qui est l'amour charnel. L'amour charnel existe dans la Bible, mais le mot n'y est pas. Pourquoi? Mais c'est normal que ce soit l'amour, sentiment humain, sentiment que Dieu a mis dans l'homme, dans la femme, qui les rapproche, qui les unisse. Mais ce n'est pas le eros. Ce n'est pas seulement cet aspect charnel et humain, mais cet amour est dans notre texte ici, c'est toujours le agapé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Assemblée. Pour le croyant, cette attirance qui est normale, qui est voulue de Dieu, se transforme en quelque sorte dans cet amour qui se donne. Alors, le jeune homme qui pense à une jeune fille, la jeune fille qui est sollicitée par un jeune homme, elle pensera non pas tellement à elle-même ou à lui-même, mais à l'autre. Qu'est-ce que je serai pour lui? Qu'est-ce que je serai pour elle? Et ensuite, que serons-nous pour les enfants que Dieu nous donnerait? Et que serons-nous l'un pour l'autre, étant unis? Unis par cet amour qui se donne. Et partout, la parole met cet accent. Cet amour conjugal est un amour qui se donne, et non pas un amour égoïste, ou pas une simple affection. On peut avoir une affection fraternelle, n'est-ce pas, dans 1 Pierre, il y a l'addition, ajouter à votre foi la vertu la connaissance, etc. L'affection fraternelle et, pour finir, l'amour qui culmine. L'affection fraternelle est à sa place, l'affection entre des amis, l'amitié. Mais dans le couple, c'est cet amour qui se donne. Mais il n'y a pas seulement cela. Il nous est dit aussi, au verset 29, personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'Assemblée. Bien sûr, le Christ, le Seigneur, nourrit son Assemblée, il la chérit, mais le mari est appelé aussi à nourrir sa famille. C'est l'idée fondamentale. Bien sûr qu'il y a beaucoup de cas où l'épouse contribue, matériellement, pensez à la campagne en particulier, combien une épouse de la campagne a de travail à fournir, ou bien si l'on a, disons, un magasin, il faut bien que l'épouse aussi travaille. Mais enfin, fondamentalement, c'est le mari qui est appelé à nourrir. Mais pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement, et c'est ça qui importe. La responsabilité du mari de veiller à ce que son épouse et son foyer soient nourris de la parole de Dieu. Bien sûr que suivant les couples, suivant les tempéraments, si l'on peut dire, suivant le niveau spirituel, il y aura une lecture commune de la parole de Dieu, la prière ensemble, mais il y aura aussi la lecture individuelle. On reste. On a toujours besoin de cette communion personnelle avec le Seigneur. Alors ce sera plus accentué, suivant le couple, moins accentué. L'essentiel, c'est qu'on soit nourri. Qu'on soit nourri et qu'ensemble, on éprouve que le Seigneur nous aime. Dans 1 Pierre, nous avons un passage un peu parallèle. 1 Pierre 3, au verset 7. Mais pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Demeurez avec elle comme avec un vase plus faible, leur portant honneur. Et d'autre part, que la femme craigne ou respecte son mari, dans Éphésiens 5, c'est le respect mutuel. Dans un couple chrétien, il y a un respect mutuel l'un pour l'autre. Et bien sûr qu'on sera intimement unis, mais on est appelé aussi à respecter la personnalité de l'autre. Le mari n'a pas à écraser son épouse, leur portant honneur, même si c'est un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur. Et la femme appelée, d'une part, à être soumise, comme au Seigneur, et à respecter son mari, se respecter l'un l'autre. L'expression n'est pas exactement la même, la parole de Dieu est certainement précise pour ces raisons. Mais la pensée est là. Il y aura de l'intimité, il y aura beaucoup de choses que l'on partage, et pourtant, on se respecte. Et un ménage où l'on ne se respecte plus, où il y a eu une familiarité telle que il n'y a plus de respect, n'est certainement pas aussi uni dans le Seigneur que lorsqu'il y a respect l'un de l'autre. Mais pourquoi, fondamentalement, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie de Dieu, bien sûr, pas de la vie humaine, ensemble héritiers de la grâce de la vie. Ça montre bien qu'il ne peut pas y avoir de mariage chrétien si tous les deux ne sont pas enfants de Dieu. Et il y a beaucoup d'enseignements à ce sujet, n'est-ce pas? Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Un croyant est lumière dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, il est encore dans les ténèbres. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Et c'est souvent un piège de se dire, oh bien, je l'amènerai au Seigneur. Ça peut arriver, le Seigneur dans sa grâce peut le permettre, mais ce n'est pas un principe de base. Les passages qui nous sont donnés, ou même ici dans Pierre, où une épouse croyante peut gagner son mari, et il y en a d'autres, ce sont des cas où les deux se sont mariés étant incroyants. Puis l'un a été amené au Seigneur, et alors il espère gagner l'autre par la grâce de Dieu. Et là, on peut remarquer, puisqu'on est dans ce chapitre de 1 Pierre, comment est-ce qu'une femme peut gagner son mari au Seigneur au début du chapitre 3. Pareillement, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Il soit gagné. Lorsque diverses assemblées se sont formées en Italie après la guerre, il y avait plusieurs sœurs. Et ces sœurs avaient des époux non-croyants. Et c'était une grande perplexité pour elles, un grand désir que leur mari vienne au Seigneur. Et elle voulait qu'on leur dise comment s'y prendre. appel d'une des premières conférences où il y avait de telles sœurs. Et elles ont demandé si elles pouvaient poser des questions, parce qu'elles n'avaient pas leur mari pour les enseigner, elles n'avaient pas de famille, personne. Elles avaient des questions à poser. Bon, les frères ont dit, il ne convient pas qu'une femme parle dans l'assemblée, mais qu'elle veuille bien mettre sur un billet la question qu'elle désirait poser. Et puis les billets venaient vers les frères, et les frères tâchaient d'y répondre. Et au fond, les principales questions étaient comment gagner notre mari pour le Seigneur. Alors une sœur de la campagne, je ne sais pas si c'est dans une conversation ou pendant la réunion, mais enfin, a fait savoir que lorsque son mari sortait au champ, elle allait avant semer des versets de la Bible là où il allait labourer ou là où il allait semer, etc. Et puis elle l'engageait à lire la Bible, etc. Et puis ça n'avait pas d'effet, alors pourquoi? Qu'il soit gagné sans parole, ou sans la parole, par la conduite de leur femme. Et alors un autre a raconté, oui, c'est un frère qui avait été amené au Seigneur après son mariage. Ma femme était très gentille, elle faisait tout pour moi, mais je voulais pas venir au Seigneur. Et voilà qu'un soir, j'arrive à la maison avec un ami, ma femme était couchée, c'était très tard. J'appelle, tu découtes, je suis avec un ami, il faut nous faire un beefsteak. Oh, la femme s'est levée, sans rien dire, allée à la cuisine, elle a préparé la viande et ce qu'il fallait. Elle a bien accueilli l'ami. Et alors les deux ont été frappés. Et ça a été un certain point décisif dans la vie du mari. Que sa femme se soit levée, c'est l'ami qui lui a dit, mais enfin, elle ne va pas se lever, tu vas voir. Ou bien si elle se lève, elle va t'en dire. Elle s'est levée, elle n'a rien dit, elle les a servis, malgré l'heure très tardive. Ah, il a dit, non, ça c'est quelque chose. Et ça a parlé. Et le frère est venu au Seigneur quelque temps après. Mais cet incident l'avait parlé. Qu'elle soit gagnée par la conduite de leur femme ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, ou dont la parure ne doit pas être une parure extérieure, mais l'homme caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. Bien sûr que c'est normal, on peut le lire dans le Corinthiens, qu'une épouse cherche à plaire à son mari et qu'un mari plaise à son épouse. L'apôtre ne dit rien de mal là contre et constate que c'est ainsi. Même dans l'Apocalypse, quand l'épouse apparaît, elle est comme, enfin la sainte cité apparaît, elle est comme une épouse ornée pour son mari. C'est normal. Mais ce n'est pas l'extravagance d'une parure extérieure qui va attirer ou qui va amener un mari incrédule à la foi ou qui va attirer un jeune croyant vers une jeune fille. Pas la parure extérieure qui attire, mais l'homme caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. Qu'est-ce qu'elle est, cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle est, ma femme, intérieurement, cette vie intérieure qui va se traduire dans la vie extérieure et dans la conduite? C'est ça qui gagne. C'est ça qui amène au Seigneur, au plus près du Seigneur. Alors, pour en revenir au verset 7, ensemble héritiers de la grâce de la vie. On est ensemble au Seigneur. On en est reconnaissant. On lui en dit notre reconnaissance. Et alors il y a ce respect mutuel, ce sentiment d'être ensemble héritier, racheté, pour que vos prières ne soient pas interrompues. On ne peut pas dire si vos prières sont les prières du mari ou les prières communes. Des frères pensent d'une manière, des frères de l'autre. Ce qui importe, c'est les prières, qu'elles ne soient pas interrompues. Si on se dispute, c'est difficile de prier ensemble. Il faut d'abord reconnaître ce en quoi on a manqué en se disputant ou en étant mécontent l'un de l'autre ou tout ce qui peut se passer, n'est-ce pas, dans un ménage. faut d'abord se réconcilier devant le Seigneur, et ensuite on peut prier. Que vos prières ne soient pas interrompues. Si vraiment vous avez le sentiment de cette grâce de la vie, cette grâce de Dieu qui vous a amené à lui, et ce respect l'un pour l'autre, on pourra prier ensemble. Que vos prières ne soient pas interrompues, c'est très important. Alors on est nourri de la parole, on s'adresse à Dieu ou au Seigneur Jésus, suivant les circonstances, suivant les sujets de prière, mais on peut le faire ensemble. Bien sûr qu'on peut prier aussi individuellement et on le fait, chacun a ses motifs de prière, mais il y a la prière ensemble. Vous pouvez lire encore le passage dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 7, au verset 32. Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur, comment il plaira au Seigneur. Et celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde, comment il plaira à sa femme. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle plaira à son mari. L'apôtre fait cette différence entre celui qui a été conduit par le Seigneur à rester célibataire pour avoir le temps et être consacré au service du Seigneur. C'est ce qu'il dit plus loin, n'est-ce pas, au verset 37. Celui qui tient ferme dans son cœur, qui n'est pas sous l'empire de la nécessité, qui est maître de sa propre volonté, a décidé dans son cœur de garder sa virginité, fait bien. Il y a eu des frères qui, pour le service du Seigneur, sont restés seuls. Avant des sœurs que le Seigneur appelle à rester seul et à être utile pour lui de tant de manières diverses. Dans l'Épître aux Romains, Phoebé était servante de l'Assemblée qui est à Sancré. Elle a rendu beaucoup de services, et à moi-même, dit l'apôtre. Et il y a bien d'autres exemples. Mais fondamentalement, celui qui est marié, il est occupé des choses du monde. C'est pas dans son mauvais sens, mais il est occupé des choses terrestres. Comment il plaira à sa femme? Et l'épouse, comment elle plaira à son mari? C'est normal. Ce n'est pas un blâme. Mais au contraire, dans l'affection mutuelle, chercher à plaire l'un à l'autre. Et non pas à user d'une autorité déplacée de la part du mari ou la femme de se plaindre, comme ça arrive. Mais chercher à plaire. Et puis ensemble, alors, éprouver ce qui est agréable au Seigneur, chercher à plaire au Seigneur, bien sûr, par-dessus tout, mais aussi plaire l'un à l'autre. Nous pensions à quelques exemples de couples dans la parole. Les patriarches, Abraham et Sarah. Abraham, un homme de foi remarquable, appelé ami de Dieu, a eu très peu de contact avec son épouse. Genèse 11, verset 29. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, le nom de la femme de Nakhor, Milka. Sarai était stérile. Puis, au verset 31, Terak prit Abraham. Un peu plus loin, Sarai, sa belle-fille, et ils sortirent ensemble. Puis ensuite, il nous est parlé seulement d'Abraham, et au chapitre 12, au verset 12, ou déjà 11, Abraham dit à sa femme, « Voici, je suis une femme belle de visage, il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi et que mon âme vive à cause de toi. » Préoccupation d'Abraham, pourvu que je vive, que je ne sois pas mis en danger. À toi, tu te ma sœur, et puis se passera ce qui se passera. On voit très bien qu'Abraham, dans ce cas-là, côté humain, n'est-ce pas, pensait à lui-même. Mais bien pire, il engage sa femme à dire carrément un mensonge. Puis, on sait ce qui s'est passé, là, le pharaon, croyant qu'elle était la sœur, ben, il l'a prise. Dieu est intervenu pour la protéger. Chapitre 18, lorsque les anges apparaissent à Abraham à Mamré, verset 9, Disons déjà au verset 6, Abraham va en hâte dans la tente vers Sarah, dit « Prends vite trois mesures de fleurs de farine, pétris, fais des gâteaux. » Puis Abraham s'occupe d'apprêter un veau. « Enfin bon, ma femme, toi tu vas vite aller à la cuisine, tu vas vite préparer pour les visites. » Puis au verset 9, ils lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il dit « Oh, voici dans la tente. » C'est tout ce qu'Abraham pouvait dire. « Où est ta femme ? Où en est-elle spirituellement ? Quel progrès a-t-elle fait depuis que vous êtes ensemble ? Est-ce que tu sais quelle relation ta femme a avec Dieu ?» Abraham n'en avait pas idée. Et quand l'ange fait la promesse, ou Dieu même, c'était Dieu lui-même, n'est-ce pas, fait la promesse que « Je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là, voici Sarah, ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, et au verset 12, elle rit en elle-même, disant « Étant vieille, aurais-je du plaisir, il n'y avait pas de foi. » Elle se dit « Mais cette promesse que j'aurai un enfant dans une année, ça ne tient pas debout. » Il faut aller dans l'Épître aux Hébreux pour voir que Sarah, par la foi, reçut la force d'avoir Isaac. Jusque-là, elle n'est jamais parlé de sa foi. Bien voilà un couple qui a marché ensemble pendant bien, bien, bien des années. Et Abraham ne savait pas où en était sa femme. Et la femme, elle suivait son mari, c'était bien. Mais foi personnelle, elle n'en avait guère. Et voilà, le fils promis ne venait toujours pas. Mais au chapitre 21, Abraham est allé au pays des Philistins, c'est au chapitre 20, et de nouveau, Sarah a dû dire qu'elle était la sœur. Dieu est intervenu pour protéger Sarah. Et alors, cette fois-là, enfin, Abraham doit dire à Abimélec au verset 11, « Je disais assurément, il n'y a point de crainte de Dieu en ce lieu, ils me tueront à cause de ma femme. » Et aussi à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue sa femme. Il est arrivé, lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, il est mon frère. Abraham est appelé à confesser son mensonge. Et lorsqu'Abraham a reconnu devant Abimélec ici, puisque c'était Abimélec qui l'avait trompé. Quand Abraham a reconnu qu'il avait fait cette convention de mensonge avec sa femme, alors, chapitre 21, l'Éternel visita Sarah, comme il avait dit, et fit à Sarah, comme il en avait parlé, et Isaac est né. C'était dans les plans de Dieu d'attendre toutes ces années, mais il y avait aussi cet obstacle. Cet obstacle que mari et femme avaient convenu de mentir, de dire « elle est ma sœur » ou « il est mon frère ». Et il a fallu le reconnaître devant celui qu'on avait trompé jusqu'à ce que Dieu puisse bénir. Ensuite, Sarah a eu un peu plus de spiritualité. C'est elle qui dit « chasse la servante, son fils n'héritera pas avec mon fils ». C'est ce que l'Épître aux Galates reprend, n'est-ce pas? Puis ensuite, il y a son ensevelissement. La seule chose qui nous soit dite, c'est sa foi dans l'Épître aux Hébreux. Mais autrement, un homme pieux, spirituel, a eu fort peu de communion spirituelle avec son épouse. Et il y avait à la base quelque chose qui devait être reconnu avant que Dieu puisse bénir. Isaac et Rebecca, serviteur a amené la jeune Rebecca. Il nous est dit en Genèse 24, verset 67, « Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, elle fut sa femme, et il l'aima. » C'est la seconde fois que nous trouvons le verbe « aimer » dans la Bible. La première fois, c'est l'Éternel qui dit à Abraham, ou Dieu qui dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, l'amour du père pour le fils, et ici l'amour de l'époux pour l'épouse. » Isaac a aimé Rebecca. Ils ont vécu ensemble 20 ans sans enfants. Isaac a prié, et ils ont prié, et Rebecca est allée consulter l'Éternel aussi, sans qu'ils étaient ensemble dans cette prière. Et alors Dieu a répondu, leur a donné ses jumeaux. Rebecca était bien disposée. Et qu'est-ce qui fait qu'après Rebecca trompe son mari, engage son fils chéri Jacob, à tromper son vieux père Isaac, et qui pour finir, Rebecca dit la dernière parole de Rebecca au chapitre 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, j'ai la vie en aversion à cause des filles de Heth. Où est-ce qu'est venue la distance entre les deux époux? Eh bien, c'est très simple, très malheureux. C'est au chapitre 25, verset 27. Les enfants grandirent. Ésaü était un homme habile à la chasse, un homme des champs. Jacob était un homme simple qui habitait les tentes. Et Isaac aimait Ésaü car le gibier était sa viande, mais Rebecca aimait Jacob. La préférence. L'un des parents pour un des enfants, l'autre pour l'autre. Et cette préférence d'Isaac pour Ésaü, pour des motifs charnels, parce qu'il aimait le gibier, cette préférence de Rebecca pour Jacob a été la ruine de la famille. Jacob a dû partir. Il n'a pas revu sa mère. Rebecca termine sa carrière en disant « J'ai la vie en aversion. » Et Isaac est aveugle. 20 ans de communion entre les époux, prière, consulte éternelle, des enfants qu'on se réjouit d'avoir, les enfants grandir, et alors cette préférence, ce clivage entre les deux. Pour des raisons charnelles, et cela a ruiné la famille. Jacob, connaissant l'histoire, Jacob a travaillé 7 ans pour la fille de Laban. Il attendait Rachel, mais voilà, on lui a donné Léa. Alors Laban lui a dit, ben travaille encore 7 ans, puis je te donne Rachel. Alors il a eu Rachel, puis il a travaillé encore 7 ans. Et puis il a travaillé encore 6 ans pour le bétail. On est parti de chez Laban. Et qu'est-ce qu'a fait Rachel? Elle a emporté les petites idoles domestiques de son père, les téraphins. Mais avant cela, au chapitre 30, Rachel n'avait pas d'enfant. Elle est jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit du ventre ?» Et alors, au verset 22, Dieu se souvint de Rachel et Dieu l'écouta. Rachel a prié. Jacob s'est fâché. Jacob s'est fâché, suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé des enfants? Puis c'est fini. Rachel, dans sa détresse, a prié et Dieu l'a écouté. Mais on voit cette jeune femme solitaire qui prie alors que son mari l'a rebutée. Pas de communion. Et lorsqu'on monte à Bethel, eh bien, il faut ôter les dieux étrangers, au chapitre 35. Il faut cacher aussi les téraphimes que Rachel a emportés. Et Rachel n'est pas arrivée au bout du voyage. Sarah avait fait le voyage de Charan jusqu'en Canaan. Rebecca, jeune fille, a fait le voyage de Charan jusqu'en Canaan pour trouver Isaac. Et Rachel, avec Jacob, a fait le voyage de Charan. Mais un peu avant d'arriver à Bethel, d'arriver à Bethléem, il y avait encore quelques espaces de pays pour arriver à Éphrate. Rachel est décédée. Nous ne pouvons pas trop dire pourquoi, mais cela ressort quand même du texte. Rachel avait prié. Dieu lui a répondu, mais Rachel a emporté les téraphimes, les dieux étrangers étaient ce qui comptait, pas tellement la foi en l'Éternel. Mais Dieu n'a pas permis qu'elle arrive au bout du voyage. Bien sûr, il y avait une mesure de foi, elle avait dit « j'irai ». Non, c'est Rebecca qui avait dit « j'irai », mais Rachel s'était attachée à Jacob. Mais voilà, ce couple n'a jamais été uni. Suis-je à la place de Dieu que tu as refusé? Rachel prie, mais son cœur n'est pas là. elle n'arrive pas. Au bout de la course, ça ne veut pas dire qu'elle était perdue du point de vue du salut éternel, mais quant à la course. Et on voit comme Jacob aimait Rachel tout à la fin de sa vie, quand il est avec Joseph, il rappelle, n'est-ce pas, comme moi j'étais en chemin, revenant de Padan, voilà, Rachel est morte sur le chemin. C'est frappant qu'il y ait eu entre ces hommes de foi qu'étaient les patriarches, si peu de communion avec leur épouse. Il y a un cas dans le premier livre de Samuel qu'on peut encore mentionner. Lorsqu'il montait donc pour la fête, Elkana et ses femmes, Pénina avait des enfants, Anne n'avait pas d'enfants. Pénina poussait Anne à l'irritation, chapitre 1, verset 6. Et voilà, Anne pleurait, ne mangeait pas. Que fait son mari, verset 8? Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il chagrin? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Voilà cette jeune épouse qui n'a pas d'enfant. Son mari lui dit, mais moi je vaux beaucoup mieux pour toi que des enfants. Et Elkana ne prie pas avec Anne. Ensuite, Anne se lève du repas. Elle va prier. Et Dieu a répondu à sa prière. Mais son mari aurait pu prier avec elle. Dans les Juges, alors, on a ce couple remarquable de Manoa et sa femme. Au chapitre 13 des Juges. La femme de Manoa n'avait pas d'enfant. Un homme lui apparaît et lui dit, tu es stérile, mais tu concevras, verset 3. Et elle lui dit ce qu'elle doit faire en attendant la naissance. Elle en parle à son mari. Son mari supplie l'Éternel au verset 8 pour que l'homme de Dieu apparaisse de nouveau. Dieu exauce la voix de Manoa, l'ange vient de nouveau vers la femme, puis Manoa vient et les deux ensemble entendent la promesse de l'ange. Puis Manoa désire apporter un sacrifice. Et alors au verset 19, Manoa prit le chevreau et le gâteau, il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et il fit une chose merveilleuse, tandis que Manoa et sa femme regardaient. Il arriva que comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, Manoa et sa femme regardant, et ils tombèrent sur leur face contre terre. Deux époux qui ont prié, deux époux qui ont recherché la pensée de Dieu, deux époux qui adorent, qui ont le regard en haut, vers celui qui monte au ciel. Bien sûr, figure pour nous du Seigneur Jésus, c'était l'ange de l'Éternel. Ou dans notre version, on a mis un A majuscule pour montrer qu'au fond, c'était le Seigneur qui était apparu, qui monte dans la flamme du sacrifice. Le Seigneur Jésus est monté au ciel, et les disciples regardaient en haut, et Manoa et sa femme avaient déjà regardé. L'ange avait dit, quand on lui a demandé son nom, il est merveilleux, c'est-à-dire il est encore caché. Mais quand même, communion entre deux époux. Il y aurait bien d'autres exemples qu'on pourrait rechercher dans la parole. Communion entre époux, manque de communion dans les patriarches, et alors connivence dans le mal pour Ananias et Saphira. Les deux de connivence mettent de côté une partie du prix et font croire qu'ils ont donné le tout. Le mal n'était pas de mettre de... une partie de côté, ils étaient libres, mais pas de faire croire qu'ils donnaient le tout. Et alors, ils sont morts sous le jugement gouvernemental de Dieu. Mais, communion ensemble dans la vision du Seigneur qui est monté au ciel. Communion partielle dans certaines choses de la vie, mais pas fondamentale comme chez les patriarches. Et alors, ensemble, héritiers de la grâce de la vie. Encore juste un verset dans ce chapitre particulier de la fin des Proverbes. De la femme vertueuse, chapitre 31, verset 21. Le cœur de son mari se confie en elle. Verset 22, il lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Voilà un couple merveilleusement uni, où l'épouse, puisqu'il est question d'elle, fait du bien à son mari, et non du mal tous les jours de sa vie. Une épouse peut faire du tort à son mari, peut-être en l'admirant trop, ou alors en parlant mal de lui, ou tant d'autres choses, n'est-ce pas? Mais ici, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Quel encouragement peut être une épouse fidèle dans le Seigneur? Et alors, quand on arrive à la fin de la vie, à la fin du chapitre, les fils sont grands, ils se lèvent, verset 28, la disent bienheureuse. Son mari aussi la loue. Plusieurs filles ont agi vertueusement. Il y a plusieurs filles qui sont vertueuses, tu n'es pas la seule. Mais toi, tu les surpasses toutes. Bien sûr, objectivement. Pour lui. Mais si à la fin de la vie, un époux peut dire à son épouse, tu les surpasses toutes, il y a une bénédiction toute particulière sur ce foyer. Ensemble, héritiers de la grâce de la vie.